Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À quoi sert l'écriture? À quoi servent les romans? À vivre par procuration? À mieux vivre? À traverser nos multiples vies intérieures? À traverser nos sentiments, nos combats, nos drames et nos deuils? Nous dirait probablement notre invité de ce matin, un homme comme vous et moi, ébéniste de son métier, ce qui sur une antenne comme la nôtre ne gâche rien, ébéniste mais aussi romancier, auteur à répétition, même s'il n'est pas à très grand succès, mais peu lui importe, ce qui là aussi n'est pas pour nous déplaire, il est homme pour qui l'essentiel est de semer. Bernard Rousseau, une vie à transmettre, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission portrait en ce vendredi, comme ça arrive de temps à autre avec vous. Bernard Rousseau, vous êtes donc ébéniste, écrivain, vous avez écrit plusieurs romans, dont un intitulé La jeune fille et le fleuve, paru aux éditions Passiflore, qui vous a valu un prix, le prix Chronos 2020. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait à nouveau un détour par nos studios, parce que c'est donc Monique Fauché, la madame littérature de la maison, qui de temps en temps me rabat des invités, mais je lui rends bien l'appareil. Elle me dit, tiens, celui-là, j'arrive pas à imiter sa voix, elle a une voix un peu plus perchée. Tiens, celui-là, tu devrais vraiment l'inviter. Alors, c'est ce que je fais ce matin. On va donc faire connaissance avec vous, Bernard Rousseau. Ça va, je vous ai pas vexé en disant que vous êtes un homme comme vous et moi, en parlant des auditeurs?
Ah non, c'est tout à fait la vérité. En fait, on est tous un peu différents. Je crois que chacun a son parcours de vie et voilà, on est à la fois semblables et différents. C'est la vie. Hein.
Alors, vous avez écrit donc plusieurs romans. On en citera d'autres. Un donc paru récemment, c'était en 2020, c'est ça qu'il a dit.
Alors le prix.
Pris en 2020.
Voilà,
publié
mais
en 2019.
avec les événements sanitaires qu'on a eu, il y a eu beaucoup de retard dans tout. Quoi, voilà.
Donc vous avez eu le prix Chronos pour ce livre. Oui, c'est ça, il est sorti en 2018. Le prix Chronos, en quelques mots, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est un prix national qui est donné sur un thème qui est le lien intergénérationnel. Donc des livres sont choisis par un comité de sélection. Et ensuite, ils sont soumis à un jury qui est constitué d'étudiants, de gens dans des clubs de lecture, donc sur toute la France. Et à l'issue du vote, le prix est donc décerné à celui qui obtient le plus de voix sur l'ensemble des votants.
Donc c'est pour ça donc, que vous avez eu ce prix. Alors La jeune fille et le fleuve, on peut dire d'ores et déjà que le fleuve en l'occurrence c'est La Garonne. Ce qui laisse entendre déjà rapidement que vous avez, on va dire, deux grandes passions. En tout cas, il y a deux fils rouges un peu dans vos ouvrages que j'ai parcourus, même si je ne les ai pas lus in extenso, qui est donc cette question de la jeunesse et du rapport intergénérationnel, et puis la place de la nature. Mais on y reviendra. Comme à chaque fois, dans ces émissions portraits, on commence par savoir qui vous êtes, voilà, puisque vous avez la sympathie de parler un petit peu de vous. Donc, avant d'être ébéniste, vous avez été enfant et adolescent. Vous êtes né en Afrique, donc au Bénin, et ça n'est pas rien, semble-t-il, dans votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors voilà, le Bénin s'appelait d'ailleurs à l'époque Dahomey. Et ensuite, j'ai vécu au Sénégal. J'ai été donc à l'école là-bas. J'ai démarré ma vie en Afrique. Je suis revenu à l'âge de 12 ans, donc j'avais fait 6e et 5e en Afrique. Donc ce qui fait que ça a marqué quand même considérablement ma vie, même si j'ai oublié pendant quelques temps. Et ça a marqué tout ce que j'ai pu faire après, quelque part. Donc dans mes livres, il y a toujours un petit passage, des références à l'Afrique, mais aussi dans mes créations, puisque en mobilier, après les premières années qui ont été plutôt de labeur, de constituer l'entreprise, d'améliorer mon savoir-faire, je suis passé à une phase plus créative et l'Afrique revenait sous forme de silhouettes, de couleurs, etc.
Quoi. Alors, vous pourriez... Enfin, il y a peut-être de multiples raisons pour lesquelles l'Afrique vous a marqué. Est-ce que vous diriez que c'est d'abord parce que vous avez fait l'expérience de la différence?
Alors, quand on est enfant, je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Ma première classe, on était dans l'école publique et je suis arrivé pour apprendre à lire, à écrire. On était 55 gamins, on devait être trois occidentaux. Et ça m'a posé aucun problème. Mes copains, c'était les gamins qui étaient autour de moi. Et je pense que c'était peut-être aussi voulu par mes parents, hein, puisque il y avait des écoles privées, et bon, nous, on était dans l'école publique, et voilà.
Alors, à quoi ressemblait votre famille, on va dire profil sociologique, profil philosophique ou religieux?
Alors, mon père était militaire, hein, on est 5 enfants, j'ai 4 sœurs, j'ai été élevé... contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, pas du tout protégé, mais au contraire, au milieu de mes sœurs. Donc, c'est-à-dire, j'ai appris à... Je faisais la vaisselle comme eux, je participais aux tâches ménagères. Dans ma famille, il n'y avait pas du tout de distinction. Et donc, bon, j'ai une famille qui était chrétienne. Je dis chrétienne, même si on était catholique, parce que ma mère était de La Rochelle. Donc La Rochelle, vous savez, il y a le protestantisme, il y a toute une histoire. Et dans ma famille, j'ai aussi des gens qui sont protestants. Donc c'était très écuménique.
C'était des chrétiens qui croyaient vraiment en Dieu ou des chrétiens qui doutaient beaucoup, qui pratiquaient peu?
Mes parents, je pense que c'était quand même des chrétiens qui croyaient en Dieu. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. Et gamin, on était très, très marqués par ces croyances. Voilà. C'est quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a marqué, quoi.
Quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit une chose importante pour vous, que vous avez citée assez naturellement, c'est que vous êtes allé à l'aumônerie quand vous étiez donc jeune, mais vous êtes allé dans l'aumônerie paroissiale. Alors, pouvez-vous nous redire pourquoi c'était important pour vous de préciser ça?
Oui, j'ai précisé ça. En fait, c'est quelque chose que j'ai constaté beaucoup plus tard. Sur le moment, on ne s'en est pas du tout rendu compte. Il y avait donc une aumônerie militaire dans laquelle, naturellement, les enfants de militaires allaient comme on avait la paroisse de l'aumônerie militaire. Et enfin les messes plutôt des aumôneries militaires. Et mon père, je pense que ça venait surtout de mon père, souhaitait qu'on soit mis dans la paroisse. Voilà, donc on était au milieu d'une paroisse qui était plutôt dans une zone très populaire. Et donc on a été à l'église et on a fait nos communions avec les gamins des cités. Enfin, c'était la Médina là-bas et voilà. Donc alors sur le moment, nous, c'était normal, hein, il n'y a pas eu de...
Donc vous aviez l'habitude là aussi de fréquenter, on va dire, la différence, mais aussi des milieux, entre guillemets, assez simples ou pauvres, c'est ça?
Oui, enfin, je sais pas, quand on est gosse, on n'a pas cette hiérarchie de...
Non, mais vous dites que vos parents avaient peut-être réfléchi...
Peut-être, je l'ai pensé plus tard, si vous voulez, c'est beaucoup plus tard, je me suis dit, c'était quand même une sacrée démarche, il y a... presque 60 ans, d'envoyer ses enfants dans le milieu social dans lequel on était, quoi, et pas de les en soustraire. Voilà, c'est tout. C'était une remarque comme ça.
Vous avez fait des études d'agronomie, donc vous avez été ingénieur agronome. Vous avez même exercé pendant quelques années dans une spécialité qui est l'écologie. Ça veut dire quoi être ingénieur agronome spécialisé dans l'écologie? Pour vous, ça donnait quoi?
Alors, en fait, quand je suis revenu en France, moi, je suis tombé amoureux de la forêt. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. En Afrique, c'était la savane, etc. Donc, je voulais faire une carrière dans la forêt. Mais comme les études n'étaient pas mon fort, je pensais être simplement garde forestier, vous savez, quand on est jeune. Puis, bon, mes études ont marché un peu mieux. Et on m'a poussé, mais les enseignants, hein, à faire des études d'agronomie. Donc, j'ai fait les classes prépa et je suis rentré... dans une école d'agronomie. Et ce qui m'a intéressé, c'est que c'était la première école qui démarrait des études d'écologie.
Et c'était quoi les études d'écologie?
Alors, on était dans les années 70, l'écologie, on en parlait, c'était tout juste Dumont, vous voyez, si vous avez entendu parler de... qui disait à l'époque « le monde aura soif ». Mais l'écologie, c'est pas du tout ce qu'on entend actuellement qui est politique, hein. C'était vraiment la compréhension des milieux et des milieux naturels, les interactions qu'il y a entre les êtres vivants, entre les milieux, le sol, etc. Donc, on faisait des études de sol, on faisait... Dans tous les milieux, on a travaillé sur la forêt, mais aussi sur l'estran, puisqu'on était en Bretagne, sur les landes, sur tout ça. Donc c'était apprendre à connaître mieux le milieu naturel pour essayer d'améliorer nos rapports avec cet environnement.
Vous avez exercé ce métier pendant combien de temps?
Alors pendant 4 ans, j'ai travaillé dans un parc régional. J'ai travaillé 3 ans en Auvergne, dans le parc des volcans d'Auvergne, qui était un peu à la création des parcs, puisque c'était un peu la réflexion qu'on avait dans nos études, hein, le début des parcs régionaux, quoi.
Alors après, vous avez bifurqué sur l'ébénisterie. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? C'était quand même un beau métier que vous aviez, plein de sens.
Alors,
vu de
loin, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai fait, hein. Je me suis beaucoup investi à essayer de faire de la vulgarisation aussi, auprès du monde, mais c'était très politisé. J'ai très, très vite senti que c'était très politisé, et par ailleurs Moi, j'ai toujours aimé faire des choses assez créatives. Je faisais des décors de théâtre, je faisais plein de choses en parallèle, étudiant et avant. Et donc, il y a eu un moment où j'avais une sorte de frustration d'être un peu coincé par nos édiles et d'avoir envie d'être indépendant et autonome, quoi.
Alors, vous avez exercé donc le métier d'ébéniste pendant de nombreuses années, on peut dire voilà, presque toute votre carrière. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourriez nous partager de ce métier pour des chrétiens ébénistes? Ça fait tout de suite référence à... Enfin, on pense tous rapidement à Saint-Joseph. Voilà, c'est un métier, on va dire, noble, s'il en est, en tout cas, vu comme tel. Je recevais récemment, ça, c'était au début de la semaine, il y a quelques temps, donc un spécialiste de Saint-Joseph qui rappelait qu'à l'époque de Jésus, être charpentier et ébéniste, c'était la crème des artisans, hein, c'était des ingénieurs presque, et il y avait même une expression chez les Juifs qui disait « quand tu ne sais pas quelque chose, va demander au charpentier ». Comment vous nous présenteriez un peu ce métier d'ébéniste ?
Je crois que moi, au départ, idéalement, je l'ai un peu... vu comme ça. Enfin, pour moi, c'était un peu quelque chose qui sortait du commun. En même temps, le travail du bois est quelque chose qui est complètement... qui existe dans tous les pays. C'est un moyen de se rencontrer, même quand j'ai voyagé plus tard. C'est un métier qui est facile d'accès, les gens comprennent, parce que vous faites des tables, des chaises, des escaliers. Donc, ce qui me rapprochait de la charpente aussi, puisque l'escalier, c'est aussi un domaine du charpentier en France, mais nous, on en a fait beaucoup dans notre atelier, et des escaliers particulièrement compliqués, vous savez, avec des limons cintrés, des pièces techniques. En fin de carrière, je dois dire, hein, il a fallu d'abord que je travaille beaucoup. Et puis, à travers ce métier, moi, j'ai essayé de conserver une éthique, c'est-à-dire, j'avais envie de tout produire dans l'atelier et qu'il n'y ait pas d'achat-revente, ce qui s'est passé de plus en plus.
Ça veut dire quoi, tout produire, par exemple ?
C'est-à-dire que je rentre du bois en planche et j'en sors un meuble, j'en sors une cuisine, j'en sors un...
Aujourd'hui, on fait comment ?
Eh ben,
on achète en pièces détachées
Oui, voilà, ouais, tout à fait.
Ah oui.
On a de plus en plus des industriels qui fabriquent à façon.
Et donc, vous n'êtes plus ébéniste, vous êtes assembleur.
Voilà. Et il y a beaucoup de métiers qui ne deviennent plus que de l'assemblage et de la pose. Donc, vous prenez les cotes. Éventuellement, vous faites un plan, mais avec des données qu'on vous donne. Donc, c'est compliqué. Et il reste encore quelques-uns qui travaillent la matière. Et moi, j'aimais ça, le contact de la matière, etc. Et puis, j'avais envie aussi, à travers ce métier, de travailler avec des bois locaux. Et c'est compliqué, hein, parce que si vous faites de la menuiserie, les menuiseries extérieures, c'est du cipot, c'est donc des bois exotiques. Les contreplaqués, pour la plupart, ça vient du Gabon, le koumé, des bois comme ça. Donc, j'ai essayé de réfléchir comment on pouvait... dans nos petits ateliers, conserver une certaine éthique dans notre manière de travailler et puis d'accueillir des jeunes pour les former petit à petit. Voilà.
Alors on va y revenir. J'aimerais juste faire entre guillemets, une parenthèse avant que vous nous parliez de ces jeunes qui se sont succédés dans votre atelier. C'est votre engagement au sein d'ATD Quart-Monde, à Toulouse, entre autres. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Donc ATD Quart-Monde, pour qui par hasard ne connaîtrait pas, c'est ce mouvement, enfin aujourd'hui c'est une ONG, mais mouvement initié par la figure de Joseph Wrzesinski, et donc c'est l'attention au Quart-Monde, comme on dit, c'est-à-dire la grande pauvreté chez nous, monde
alors,
occidental.
Ça, cette approche d'ATD Quart-Monde, elle est plus ancienne, c'est quand on était étudiant, hein, on avait un groupe de réflexion pour se poser des questions, vous savez, vous avez 20 ans, on était en prépa à l'époque, on bosse tout le temps et on avait besoin de réfléchir à la vie, au sens qu'on voulait donner à notre vie, etc. Et puis...
Donc vous faisiez partie d'un... Vous étiez en classe prépa, mais vous faisiez partie d'un groupe d'ATD Quart-Monde.
Alors, au départ, on faisait partie d'un groupe de réflexion, puis on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, parce que c'est bien de brasser D'accord. des idées. Et donc, on avait contacté, à l'époque, Wrzesinski, quoi, qu'on a rencontré plusieurs fois, avec qui j'ai mangé plusieurs fois.
Ah oui, vous l'avez rencontré ?
Oui, oui, oui. Oh, bah oui, oui. À l'époque, c'était les années 70. Hein. Ah, oui. Donc,
quelque chose, quand même, de rencontrer cet homme, non ?
Oui, c'était quelque chose. Ça a fait partie des personnages marquants de mes rencontres, quoi, qui m'ont marqué dans ma vie ensuite. Et on a donc travaillé dans les cités... autour de la région parisienne. Et puis ensuite, on leur a dit, oh, attendez, nous, on veut les amener à travailler aller voir ce qu'il y a autour de la nature dans les cités. C'est-à-dire qu'il y a des mares dans lesquelles on allait pêcher des insectes, etc. Et on a fait toute une approche comme ça, plusieurs années de suite. On a même amené tout un groupe de jeunes dans le, je ne sais plus trop dans quelle région, enfin de, en voilà. Auvergne, oui, par là.
Et alors après, plus tard, vous avez repris contact
avec
la Fédération.
Et beaucoup plus tard, quand j'ai travaillé, donc quand je me suis mis à mon compte, quand l'entreprise a été lancée un peu, je me suis dit, mais peut-être que ça existe aussi dans le coin. Donc j'ai contacté ATD Quart Monde et j'aurais dit, voilà, moi j'ai un atelier, je peux faire quelques ateliers dans les cités, si ça vous dit. Et donc il y avait un certain Joseph qui travaillait dans la cité des Isards, qui faisait plutôt du métal, lui, et qui m'a dit, ah ben moi je suis preneur, et donc j'apportais quelques bouts de bois, quelques petites machines-outils, et puis pendant quelques années, le samedi après-midi, on faisait des ateliers, surtout avec des jeunes, mais de temps en temps, ça m'est arrivé d'aider des adultes à restaurer des chaises, etc. Puis après, c'était dur, hein, parce qu'avec un atelier à tourner, des enfants quand même, j'aurais dit, ben, et vous ne pourriez pas me les amener plutôt à l'atelier, ce sera plus facile. Et bon, ça a continué un petit peu comme ça, voilà.
Alors
après, j'ai décroché. Hein.
Venons-y peut-être avant de faire une première pause, et puis on pourra découvrir d'autres choses de vous au fil de l'émission. Donc, vous avez tenu, au long de votre carrière donc d'ébéniste, à accueillir beaucoup de jeunes, donc en stage professionnalisant, des compagnons aussi. Vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi c'était important pour vous? Et puis, je sais pas, vous l'avez fait toute votre carrière quelque part?
Alors, je l'ai fait, oui, pratiquement toute ma carrière. Et je trouvais ça important de transmettre. Vous savez, c'est un métier où la transmission est fondamentale. J'ai appris, moi, parce que d'autres m'ont appris. Et j'ai progressé, c'est-à-dire qu'on recherche soi-même. Il y a une partie forcément autodidacte importante. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des nouveaux matériaux, il y a des interrogations. Et donc, en progressant, on a envie de se dire qu'un jeune qui s'installe, il n'ait pas tout ce travail à faire. Donc, essayer de transmettre. Alors, bien sûr, il y a un lycée professionnel d'ébénisterie à Revel. Donc, j'ai pris des stages. Mais j'ai aussi pris des adultes. Et j'ai aussi pris des jeunes en formation plus longue, qui étaient des contrats de qualification. Donc, j'ai pris des gens par les compagnons. J'ai eu un très jeune qui démarrait, qui avait passé son CAP avant et qui a fait dont j'ai été le premier patron avant de continuer son tour de France. Et puis, j'ai pris. Et la dernière en date, c'était donc une jeune femme qui a fait son apprentissage chez moi, puis que j'ai embauché ensuite en CDI, quoi.
Je rappelle le titre de votre dernier roman, celui qui a été primé, La jeune fille et le fleuve. C'est paru aux éditions Passiflore. On va faire une première pause et puis on va faire un peu plus connaissance avec vous et avec vos deux, j'allais dire marottes, mais avec vous, c'est pas des marottes, c'est des mondes intérieurs, on a l'impression. La nature et puis, je sais pas si c'est une marotte, une passion en l'occurrence, mais peut-être oui, la passion de transmettre. Vous allez nous en parler dans quelques instants.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Bernard Rousseau, une vie à transmettre, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour cette émission un petit peu portrait avec vous, pour ceux qui nous rejoindraient. Bernard Rousseau, vous êtes écrivain, vous avez écrit de différents romans, dont un, donc La jeune fille et le fleuve, paru aux éditions Passiflore, pour laquelle vous avez été primé le prix Chronos. Et puis par ailleurs, on a fait un peu plus connaissance avec vous dans la première partie. Vous êtes entre autres ébéniste, enfin vous avez été, vous êtes encore, j'imagine c'est des métiers qu'on lâche pas comme ça. Alors à travers vos romans, vous m'en avez fait suivre donc sympathiquement quelques-uns, j'en ai trois donc sous les yeux, j'en ai pu parcourir quelques-uns, je crois qu'il en manque un, mais je les ai notés quelque part, il faut juste que je... Voilà, votre premier roman c'était L'arbre qui marche. Après, il y a eu Le chant du marais, ensuite Écriture sauvage, et puis La jeune fille et le fleuve. Rien qu'au titre, déjà, il y a une première chose qui paraît flagrante, c'est donc la place de la nature, de la création, ça n'est pas pour nous déplaire. Ça vous vient d'où ? Ça vous sauriez dire ? Parce qu'on sent que pour vous, la création, c'est pas un décor, quand pour beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, c'est un décor.
Alors, la création, pour moi, c'est effectivement... La création et la fabrication, je dirais. Enfin,
la création, quand j'entends la création, c'est la nature. Hein.
Ah, la création nature, ouais.
Ça vous
alors,
vient d'où,
là je vis dans la nature. Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que d'abord, quand on a construit l'atelier et la maison, on avait un grand champ, une prairie soufflée par le vent. Et j'ai planté partout des arbres, j'ai creusé des marches, voilà. Donc on a plein d'oiseaux, des papillons, on a tout ça. Mais j'habite aussi au pied de la Montagne Noire. Donc c'est-à-dire, je lève les yeux et j'ai devant moi une forêt que je vois changer au fil des saisons. Et puis, dès que j'ai un moment, je vais marcher, que ce soit le soir, que ce soit dans la journée, quand j'ai un petit moment.
Et ma question, c'était d'où ça vous vient, vous sauriez dire, en fait
ou... Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça...
Vous avez grandi au milieu de la nature, ou ça a été le choc de la rencontre de la forêt, comme vous dites?
Alors, je pense que la rencontre de la forêt était énorme. Je suis rentré, on a commencé à habiter à Bourges, quand on est revenu d'Afrique. Donc, c'est la Sologne à côté. Donc, j'ai découvert la forêt là.
Et ouais, ensuite, là, c'est des belles forêts.
Ouais, et après, j'ai fait mes classes prépa à Fontainebleau. Donc, j'habitais en cœur de la forêt de Fontainebleau, et dès que j'avais un moment, même de nuit, j'allais courir les bois, essayer de faire des photos avec un appareil misérable d'un chevreuil, d'un sanglier ou d'un blaireau. Et donc je courais les bois de jour comme de nuit, et ça a été une vraie passion, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait des études d'écologie pour me rapprocher de ce milieu-là. Et j'ai toujours vécu en zone rurale. En Auvergne, j'habitais à Rion-Esmontagne. Donc, même un petit village au-dessus de Rion-Esmontagne, donc à 1000 mètres d'altitude, et dans un village de quelques centaines d'habitants, et on partait à pied de la maison sur les planèses, quoi.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, du coup, de la création ? Ça vous désole que pour beaucoup d'entre nous, de contemporains, en fait, la nature, ça soit justement qu'un décor ?
Alors, je pense qu'on est maintenant une vie citadine. Hein. Pour plus de 75% des gens, les gens habitent en ville. Donc, leur compréhension de la nature est, je dirais, particulière. Je la comprends, hein, mais elle est particulière. C'est-à-dire que les gens, par exemple, aiment la forêt, mais une forêt qui est quand même...
Propre.
Bien propre, avec des chemins bien tracés. Ils sont pour tout ce qui est très nature, à condition que ce soit, je dirais, quand même un peu à leur service. Et c'est ça aussi qui des fois me gêne dans les rapports que je peux avoir avec les autres quand on parle de nature. Pour moi, la nature, elle reste ce qu'elle est. Elle s'adapte. Elle est capable de coloniser des zones humaines qui ont été abandonnées avec une facilité redoutable, et je dirais tant mieux. Voilà, donc je suis très optimiste sur la nature, beaucoup moins sur la manière dont on se comporte avec, quoi.
Alors, chez nous, les chrétiens, on a été secoués par un pape, par notre pape actuel, le pape François, avec la publication de cette encyclique là, qui s'appelle Laudato Si, vous en avez peut-être entendu parler. Et dans cette encyclique, le pape, on va dire, entérine, si j'ai bien compris, à force de faire des émissions dessus, on va dire, une réalité théologique qui est que on peut trouver Dieu dans la vie de l'Église, c'est-à-dire la vie sacramentelle, la vie de prière, à travers les autres, mais aussi dans la nature. Alors, les questions sur le sens de la vie et sur Dieu sont pour plus tard, mais quand vous passez du temps comme ça dans la nature, vous disiez la nuit étant étudiant, et puis j'ai cru comprendre que là, vous étiez homme à aller marcher longuement dans la nature ou dans la forêt. Vous diriez quoi, en fait? Vous avez l'impression que vous êtes en présence de quoi, de quelqu'un, que les arbres, que le monde végétal et animal, c'est une présence en elle-même. Comment pourriez-vous décrire ça un petit peu?
Ah, le bien-être que je retrouve en me baladant en forêt ou en étant au bord d'un cours d'eau ou au bord de la mer.
Vous avez l'impression,
je sais pas comment.
Vous avez l'impression qu'il y a une relation qui est possible en fait avec le monde végétal et animal. C'est
oui. Alors je suis pas non plus quelqu'un qui va dire on va rentrer en contact directement. Je vais pas communiquer. Voilà. Par contre, il y a une sensation qui est oui envahissante et un bien-être qui est certain. Enfin, qui permet d'apaiser ce qu'on peut éprouver parce que les vies sont quand même rudes. Même moi, dans une vie qui pourrait sembler pour les autres assez poétique, le métier d'ébéniste, quand on est à son compte, ce sont des métiers qui sont durs parce que il faut tous les jours se lever pour savoir qu'est-ce qu'on va produire dans la journée, arriver à le vendre, être sûr que la qualité va convenir, etc. Donc ce sont des métiers extrêmement difficiles sur lesquels on n'a aucune garantie, ni financière, ni de quoi que ce soit. Et ce besoin de m'évader, de me retrouver dehors, des fois de ne rien faire, quoi, de m'asseoir simplement au pied d'un arbre et de guetter, de regarder un truc qui passe, un oiseau voilà, qui va venir ou si je peux, un chevreuil qui va sortir d'un fourré. Voilà. Bon, ça c'est quelque chose pour moi qui est magique.
À propos de la nature, vous avez aussi fait une expérience bien particulière de la nature, c'est que vous êtes allé deux fois en Amazonie. Vous pouvez nous raconter un tout petit peu ces voyages et puis la forêt amazonienne qui pour nous est assez fascinante.
Alors l'objectif de ces voyages en Amazonie, c'est que dans mon métier, je vous le disais, on s'est posé la question, enfin je me posais la question sur la provenance des arbres exotiques. Et donc j'avais besoin d'aller sur place. Moi je connaissais un peu l'Afrique et j'avais besoin d'aller dans cette forêt qui est quand même extraordinaire, qui a quand même été longtemps décrite comme l'enfer vert par beaucoup d'écrivains, d'ethnologues, etc. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. Et j'y suis allé avec l'envie d'écrire un livre, et donc j'avais écrit presque toute la trame du livre avant d'y aller, et il fallait que j'aille sur place voir tout l'itinéraire que j'avais décrit pour vivre l'histoire que je voulais conter, quoi, hein.
Alors qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Vous êtes
alors j'ai atterri
j'imagine qu'on se promène pas dans la forêt amazonienne.
On peut se promener dans la forêt amazonienne, c'est pas aussi enfin moi j'ai beaucoup aimé, hein. J'étais vraiment dans une phase très positive dans cet univers. Alors c'est pas simple, hein, c'est pas des univers faciles. Alors justement, il n'y a pas de chemin. Contrairement, on n'a pas de route, il n'y a pas de chemin.
Donc on fait quoi? On descend comme sur les cartes postales le long du fleuve d'abord, du fleuve Amazon ou...
Alors déjà on est arrivé, bon, en avion bien sûr, sur une petite ville, Santarém, au milieu de la forêt, qui est à mi-chemin pratiquement entre Manaus et l'embouchure. Et déjà je suis arrivé de nuit, donc j'ai rien vu. Donc dès qu'il était l'aube, à peine l'aube, je suis descendu, je voulais voir le fleuve. Ça a été quelque chose, dans la nuit qui à peine se lever, quoi, enfin, et j'ai couru vers le fleuve pour voir ce fleuve qui est gigantesque. On voyait pas l'autre rive, quoi. C'est quand même impressionnant. On n'a jamais vu des choses comme ça en Europe, quoi. On n'a pas de quelque chose d'équivalent. Et puis après, j'ai cherché des endroits que j'avais repérés, hein, où je pourrais rencontrer des gens, un village indigène, des seringueros, vous savez, des gens qui collectent le latex, des gens comme ça. Et souvent, les gens vous hébergent. Bah, alors, ils ont des pousadas, ce qui s'appelle, c'est un petit peu ce que chez nous, on appellerait des chambres d'hôtes. À part que là, vous venez avec votre hamac, vous l'accrochez entre deux planches. Par terre, c'est de la terre battue. Mais ils vous font manger les produits du fleuve, hein, un poisson qu'ils ont pêché, un pirarucu ou un autre. Et puis, comme ça, j'ai voyagé, j'ai été hébergé sur... par des pêcheurs sur un radeau. Ils avaient leur maison sur un radeau, le radeau qu'ils déplacent au fil des crues du fleuve, puisque le fleuve, son niveau d'eau évolue de 15 mètres tous les ans à peu près, entre la période de pluie et la période sèche.
Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette nature, peut-être c'est...
Alors, dans la nature, ce qui... Alors,
On a des images, c'est le bruit, certains disent le bruit, la luxuriance.
La luxuriance, oui.
Une espèce de sentiment d'harmonie, parfois. Enfin, c'est peut-être un fantasme européen. Mais...
C'est aussi beaucoup l'eau, parce qu'on se déplace sur les fleuves. On était en fin de période humide, donc il y a ce qu'on appelle la varzea, c'est-à-dire la forêt inondée. Donc, vous êtes en pirogue entre les arbres. Et ça, c'est extraordinaire, quoi, de se dire que ces arbres-là peuvent, à un moment donné de leur vie, être pendant 6 mois entièrement sous l'eau, et puis réapparaître petit à petit au fil de la décrue. Par contre, par rapport à l'Afrique, il y a beaucoup moins d'animaux, enfin, où les animaux sont très cachés, puisque c'est le problème de la forêt. Hein. Chez nous, c'est pareil, hein. Voir des animaux en forêt, c'est compliqué. Et les endroits où vous pouvez les voir, c'est justement au bord du fleuve, ou éventuellement... quand on dort la nuit entre deux arbres, c'est d'entendre les animaux et de voir se refléter les yeux d'un animal qui passe en dessous de vous, parce que vous ne vous mettez pas trop bas quand même. Voilà, ça c'est extraordinaire. Ouais.
Alors dans vos ouvrages aussi, il est souvent question donc de jeunes filles, en tout cas dans les trois que j'ai parcourus, Le Chant du Marais, Écriture sauvage, La jeune fille et le fleuve. C'est quoi ? C'est un archétype un peu dans votre roman ? C'est souvent, j'ai noté... Alors, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai noté que c'est souvent une jeune fille un peu sauvage. Voilà. Vous avez une expression, c'est dans votre ouvrage, en tout cas dans le second que vous avez publié, donc Le Chant du Marais. Là, il est dit que c'est une jeune fille vagabonde. C'est un archétype dans vos romans. Et puis, qu'est-ce que ça signifie, vous diriez ?
Alors oui, on pourrait dire que ce sont des filles aussi très indépendantes qui ont... qui sont capables de dans une société qui est quand même essentiellement masculine, qui sont capables d'imposer un peu leur choix. Et c'est ce que j'ai eu dans l'atelier, hein, quand j'ai eu des jeunes, j'avais des jeunes qui avaient envie de montrer qu'elles étaient capables de faire. J'ai été un des premiers à embaucher des filles dans un atelier en tant que menuisier. Et non pas en tant que juste quelqu'un qui fait de la finition ou de la découpe de marqueterie, quelqu'un qui travaille le bois. Et ça même était pas très bien perçu tout au début. J'ai eu d'autres salariés qui disaient « mais une fille n'a rien à faire dans un atelier ». Donc j'avais envie à chaque fois de décrire des filles qui ont envie de batailler pour montrer qu'elles peuvent faire quelque chose et qu'elles sont indépendantes. Et donc c'est vrai que dans ces trois livres-là, mais c'est pas les seuls personnages qu'il y a, hein, quand même, mais il y a à chaque fois, oui, des filles qui recherchent une indépendance et qui ont envie de montrer qu'elles peuvent faire quelque chose, quoi.
Est-ce qu'il y a une forme de fascination aussi pour vous, pour les peuples primitifs ou... Les peuples premiers, comme disent certains écologistes.
Oui, alors, je ne sais pas s'il y a une fascination, mais je pense qu'on les a beaucoup oubliés, beaucoup massacrés. Et c'est actuellement important de pas oublier qu'ils existent toujours, qu'ils ont certainement une place, qu'il y a plein de secteurs, justement en forêt amazonienne, qui a survécu un peu grâce à eux. Ils se sont battus quand il y a eu la création de la fameuse transamazonienne. Moi, je me souviens, j'étais étudiant... Du coup, en écologie, quand on a démarré cette fameuse route à travers l'Amazonie, qui a permis en fait de dépecer quand même l'Amazonie, hein, faut le dire. En même temps, on le comprend, on avait besoin d'avoir un tracé à l'intérieur. Certains Indiens se sont révoltés, d'autres ont travaillé sur les chantiers. Et ils ont obtenu quand même, certains ont obtenu d'avoir des zones qui soient mises en réserve et donc qui sont quand même les zones les plus intéressantes. J'ai pris ce qu'on appelle le BR-74 qui remonte de Manaus et qui va vers le Venezuela. Et c'est quand même assez triste, c'est-à-dire qu'on est en plein cœur de forêt amazonienne et en fait on ne voit pas d'arbres. On voit des champs, des champs, des champs. Et tout d'un coup, on rentre dans un endroit qui s'appelle Terra Indigena Wairi Atuari, qui est une tribu indienne, qui se sont battus justement contre et qui ont obtenu une mise en réserve. Et tout d'un coup, vous êtes au milieu de la forêt. Et à la sortie de la réserve, vous êtes à nouveau dans des champs. C'est-à-dire que c'est à nouveau complètement défriché, quoi.
Si on en revient à la jeunesse, à propos de la jeunesse aussi, semble-t-il, quelque chose qui traverse vos romans, donc c'est quelque chose qui semble vous tenir à cœur, c'est la question de la différence, en tout cas dans Le Chant du Marais. Donc c'est une jeune fille qui est appelée l'Indienne, elle est trop brune ici, trop claire ailleurs, dit au moment il est dit d'elle. Pourquoi est-ce que certains disent que c'est une sorcière, bref c'est une jeune fille en fait qui débarque en un lieu qui s'appelle la Motte Blanche, si j'ai bien compris, qui est plus ou moins une jeune paysanne, et puis qui est regardée un peu bizarrement par les villageois. Cette question de la différence, pourquoi elle vous travaille? C'est quoi? C'est d'avoir fréquenté des jeunes des cités? C'est d'avoir connu l'Afrique
Ben, là, c'est une métisse. Hein. Moi, quand j'étais écolier, hein, lycéen en Afrique, mon meilleur copain s'appelait Georges Liès. Il était des îles du Cap-Vert. Et là, bon, l'histoire qui est une suite d'une autre histoire que j'ai jamais publiée, cette jeune est aussi une métisse capverdienne. Et donc, j'avais envie de continuer son histoire et de la raconter là. Et donc, elle arrive dans cette zone du Marais Poitevin où elle reprend une terre qui est familiale, qui est du côté de son père. C'est sa mère qui est des îles du Cap-Vert. Et donc, elle pense pouvoir s'y installer puisque c'est quelque part chez elle.
Ma question, c'était portée plus sur la différence.
Et donc, c'est
pourquoi,
là que
ça vous travaille,
elle
ce
va
sujet,
se rencontrer. On va se rendre compte comment elle est mal acceptée. Et c'est cette difficulté d'accepter les gens qui ne vous ressemblent pas qui m'a tracassé. Mais peut-être aussi parce que quand on est rentré d'Afrique, on ne nous a pas facilement accueillis. Peut-être.
Et quid des jeunes des cités? Dans l'émission que vous aviez fait avec Monique Fauché, vous citiez... alors, ce n'est pas le personnage... dans La jeune fille et le fleuve, hein, qui s'appelle dans votre roman La jeune fille et le fleuve, donc En colis. Donc là, on parle d'un autre roman. Hein. Mais à Monique Fauché, comme pour illustrer un peu cette jeune fille, qui est donc une jeune fille, vous allez peut-être nous raconter, qui est au bord du fleuve, enfin, et qui est la Garonne, et qui se pose beaucoup de questions sur son existence, qui ne va pas très bien, et qui croise donc un homme d'un certain âge, qui s'appelle Armand. Et puis ils vont faire entre guillemets une sorte de chemin un peu initiatique ensemble ou de chemin existentiel. Vous disiez qu'à Monique, pour illustrer donc cette jeune fille de la jeune fille et le fleuve, vous parliez d'enfants des cités, des jeunes des cités. Ça aussi, c'est pour nous en parler un peu. Vous avez reçu beaucoup de jeunes dans votre atelier ou c'était vos ateliers dans les cités?
Atelier, j'ai reçu des jeunes qui viennent pas forcément des cités, mais par contre, vous savez. Les jeunes qu'on met dans les lycées professionnels sont souvent des jeunes qui sont en échec scolaire. Il y a vraiment deux tendances actuellement. Il y a des jeunes qui ont fait des études et qui ont envie d'un métier manuel et qui viennent en tant qu'adultes être formés dans un atelier comme le mien. Donc là, c'est un cas. Mais on a aussi des tas de jeunes qui sont en échec scolaire et qu'on met dans un lycée professionnel. Et on se retrouve des fois avec des gamins qui sont perdus, quoi, vraiment perdus. Et la valorisation par le travail manuel est quelque chose qui peut être salutaire, que parfois j'ai trouvé comme étant salutaire vis-à-vis d'un jeune qui se sentait rejeté par tout le monde. C'est-à-dire que quand ils arrivent chez moi, c'est parce qu'ils sont obligés de venir chez moi. C'est pas du tout un choix. Ils sont obligés. Et puis, si on essaye d'être à leur écoute, si on essaie de leur faire quelque chose, on se rend compte qu'on va leur donner une chance et que d'eux-mêmes, ils vont se dire « Ah ben, tout compte fait, je suis pas stupide, je peux exister et lui donner un peu confiance en lui. J'en ferai pas un ébéniste, que les choses soient claires, mais enfin, il y a peu de chance, en tout cas sur la plupart. Mais par contre, il va sortir un peu plus sûr de lui et c'est tout ce que je peux apporter, moi.
Alors, ça aussi, c'est la dernière question que je voulais vous poser, il y en aurait d'autres, hein, mais c'est une jeunesse, cette jeunesse que vous avez croisée au long de vos années de vie professionnelle, vous diriez qu'elle cherche, enfin c'est un peu une question qui est chère pour nous dans une radio comme ça, mais elle a besoin de trouver un sens à sa vie. Ou pas? C'est des questions qui vous posez aussi.
Moi, je pense que tout le monde a besoin de trouver un sens. Tout le monde a besoin de se sentir utile aussi. Il ne faut pas penser que les gens s'en fichent. Même si l'attitude souvent de ces jeunes-là, c'est de faire croire qu'ils s'en fichent complètement. Moi, j'en ai rien à faire. Vous savez, c'est un peu la réponse. Hein.
Et encore, vous êtes poli.
Ouais, je suis poli parce que je suis ici avec vous et je me suis dit, je vais quand même être... Et puis, on essaie d'être poli, même dans l'atelier. Je reprends les jeunes pour qu'ils parlent bien, pour que... Voilà, je trouve que c'est important qu'on ait un minimum de courtoisie entre nous.
Parce que vous dites aussi que vous passez du temps avec eux. C'est-à-dire, vous avez un métier où ils ne viennent pas pour une semaine. Et puis souvent, parfois, il y a des trajets aussi.
Oui, alors, on est avec eux pendant plusieurs semaines.
Ils finissent par vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec le boulot.
Ah oui, bien sûr. D'abord parce que... Moi, je fais des pauses. On faisait des pauses le matin. Pause café à 10h, quoi, histoire de discuter, que chacun parle un petit peu. Souvent du projet qui est en cours à l'atelier, mais des fois d'autres choses. Alors, ça vient de ce qu'ils vivent. Les choses se dénouent petit à petit. Et puis, de temps en temps, on faisait des trajets assez lointains, parce qu'on va livrer, parce qu'on va faire un chantier quelque part. Et c'est des trajets qui durent plusieurs heures. Donc, forcément, on échange. Et on n'échange pas simplement que des banalités. Il y a des choses plus personnelles qui sont mises à jour. Et bon, c'est enrichissant pour tout le monde, parce que je dirais même moi, ça m'apporte beaucoup. Puis qu'il y ait des jeunes dans mon atelier, surtout en vieillissant. Quand on est jeune, au départ, quand j'ai démarré, j'avais certainement beaucoup moins besoin de ça. J'ai eu des personnes plus âgées au départ. Mais en vieillissant, oui, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui arrive, qui a 20 ans, 25 ans, qui a le sourire aux lèvres, qui est capable de rire. Enfin, je veux dire, c'est assez rafraîchissant aussi pour moi. Donc, je suis aussi bénéficiaire de l'échange.
Eh ben, on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Je vais moi-même vous poser je vais faire mon jeûne. Je vais vous poser des questions que l'on pose généralement à nos invités à l'occasion de ces émissions du vendredi. Des grandes questions. Peut-être que ça ressemblera à certaines des questions que vous posent ces jeunes. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, dernier roman, La jeune fille et le fleuve. C'est paru aux éditions Passiflore.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Bernard Rousseau, une vie à transmettre, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin avec vous donc comme invité. Bernard Rousseau, vous êtes donc écrivain, auteur donc de différents romans, dont le dernier est intitulé La jeune fille et le fleuve, pour lequel vous avez reçu un prix, le prix Chronos 2020. Vous avez dit que c'était un prix qui récompensait une œuvre sur la question de la transmission. Alors, pas de surprise pour vous, vous étiez prévenu. En cette fin d'émission, on essaie de... Quand on fait des émissions portraits comme ça, de poser quelques questions plus existentielles. La première souvent que je pose, qui n'est pas forcément la plus facile, pour laquelle il n'est pas forcément facile de répondre, mais comme vous avez eu le temps d'y réfléchir, peut-être que ça viendra tout seul. Souvent, je demande à mes invités, qu'est-ce qui fait que vous levez le matin ?
Moi, c'était très simple. Hein. Je me lève le matin parce que j'ai toujours quelque chose à faire que je veux voir naître. C'est ça aussi l'avantage de travailler de ses mains, c'est que j'ai toujours un meuble en cours ou un projet de meuble et j'ai envie de le voir évoluer. C'est long hein, de fabriquer un meuble, ça se fait pas en quelques heures, il faut souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et ça me motive tellement que des fois j'y vais le soir pour voir ce qui devient et voilà. Et pour écrire c'est pareil, j'avais la même motivation, qu'est-ce que vont devenir les personnages que j'ai laissés en plan et auxquels j'ai pensé toute la journée, et voilà, donc j'ai jamais de feuille blanche ni lits de bois qui ne fonctionnent pas dans l'atelier. Quoi.
Donc vous aimez votre métier, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors peut-être la question qui est à l'intérieur de ça, qu'est-ce qui fait que vous levez le matin ? Plus profondément, c'est quel sens la vie a-t-elle pour vous ?
Alors pour moi, je crois que j'ai besoin de... Alors, dans un métier solitaire, ça va être compliqué de le faire passer, mais j'ai aussi besoin de rencontrer des gens. C'est-à-dire, pour moi, c'est essentiel, indépendamment de mon métier, de pouvoir rencontrer, de pouvoir transmettre, de pouvoir participer un peu à autre chose. Alors, je l'ai fait avec des jeunes, mais je l'ai fait beaucoup dans des groupements. Je me suis occupé de plusieurs groupements professionnels, d'artisans d'art, d'ébénistes. Pour créer ensemble des moyens de mieux se faire connaître, de mieux vendre. Donc on a monté des boutiques ensemble. Et tout ça, ça a été un sens important qui justifiait aussi que j'ai fait des études. Parce que quelque part, par le fait de ma formation, j'avais des capacités de gérer un groupe, de faire de la compta pour tout un groupe.
Mais le sens qu'il y a à l'intérieur de ça, c'est quoi ? C'est faire ensemble ?
C'est faire ensemble. C'est aussi arriver à faire ensemble. Je me suis occupé de groupement du début de ma carrière jusqu'à la fin de ma carrière.
Voilà, parce que faire ensemble, ça donne quel sens pour vous à l'existence en fait,
Pour moi, faire ensemble, c'est déjà essentiel sur le plan humain, mais c'est aussi faire comprendre aux gens que seul, on n'est pas grand-chose. Et donc, à plusieurs, on est... Alors bien sûr, on va dire à plusieurs, on est plus fort, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'à plusieurs... On bénéficie de l'énergie des uns et des autres et on bénéficie aussi d'une autre vision. Sinon, c'est assez sclérosant d'être seul, hein, si on est seul tout le temps. Et d'aller ensemble, moi, je trouve ça enrichissant, même s'il y a des conflits, même si, au contraire, même s'il y a des conflits. Voilà, je pense que c'est fondamental dans ma vie, quoi.
Je vous ai demandé aussi de choisir éventuellement une ou deux figures, personnalités célèbres ou pas, qui vous ont inspiré à travers votre existence. Vous en avez cité une première, peut-être vous voulez revenir dessus, Joseph Wrzinski.
Oui, alors j'ai cité Joseph Wrzinski. C'est vrai qu'on avait mangé plusieurs fois ensemble. C'est vrai que...
Qu'est-ce qui vous avait marqué chez lui ?
À l'époque, c'était son un peu... Il avait beaucoup de gouailles, beaucoup de il secouait les gens. Hein, ça, il nous a bien secoués. Et en même temps, comme on était jeunes et complètement... À côté de je dirais, de notre pompe, on dirait maintenant, on tenait tête, on défendait nos idées avec véhémence, etc. Quoi. Donc c'est un personnage un peu hors du commun, qui était un peu pour moi dans la lignée de quelqu'un d'autre qui est le père, qui était ensemble, l'abbé Pierre, et dont je crois qu'ils ont commencé plus ou moins le chemin ensemble. Et sa vision à lui était plus d'aider les gens, enfin de... En ayant un apport sur leur culture, sur leur et nous ça correspondait à ce qu'on avait envie de transmettre. Voilà, on n'avait pas simplement envie de porter des repas, on avait envie d'apprendre à des jeunes à regarder autour d'eux, à avoir un geste, etc. Voilà. Et puis un autre, j'ai pensé à un autre nom, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Ça vient aussi de mon métier solitaire, d'activités très solitaires que j'ai fait. J'ai toujours été en admiration devant des grands solitaires, on va dire, des navigateurs ou des alpinistes. Alors bon, un nom c'est Tabarly peut-être pour moi, mais il y en a eu plein d'autres. J'ai fait de la montagne.
Qu'est-ce que vous admirez chez ces solitaires ?
Ben c'est cette force pour batailler, même quand rien ne va plus, et pour arriver toujours à croire qu'on va arriver au bout du chemin et on va continuer après. Et je sais que quand j'ai fait pas mal de montagnes plus jeune, hein, je continue, mais d'une manière beaucoup plus amateur. En fait, aller en haut n'est pas tellement... Une fois qu'on est en haut, il n'y a rien en haut, quoi. Je dirais, ce qui est intéressant, c'est le chemin et la bataille pour le chemin.
Alors, quid des évangiles ou de Jésus ? Est-ce que vous avez déjà lu les évangiles, Bernard Rousseau ?
Oui, j'ai lu les évangiles, oui, bien sûr.
Donc, vous croyez que Jésus a existé ? Ça, parce que je dis ça parce que depuis... Enfin, j'en ai appris à l'occasion notamment du Da Vinci Code, ça date un peu, qu'en fait, beaucoup de Français doutaient même de l'existence de Jésus, du personnage historique. Je ne sais pas, qui est Jésus pour vous dans ces cas-là ?
Alors bon, pour moi, Jésus a existé, oui. Enfin, de toute façon, je pense qu'il y a pas mal d'écrits qui ne sont pas des écrits religieux qui prouvent son existence. Pour moi, ça a été un peu, je dirais, le personnage qui m'a le plus... bon, peut-être parce que j'ai eu cette culture au départ, hein, mais qui m'a le plus perturbé, dans le sens où, en lisant les évangiles, c'est celui qui vous donne un peu des coups de pied dans les fesses, gentiment, je dirais, hein, mais pour vous faire avancer. Je veux dire, c'est des textes qui m'avaient marqué quand j'étais jeune, c'est... la parabole des talents, c'est-à-dire arriver à donner... moi, j'ai eu l'impression d'avoir reçu beaucoup par mon enfance, par mon éducation. J'ai eu la chance de... J'avais des facilités à l'école qui m'ont permis d'avoir un diplôme. J'avais des facilités manuelles qui m'ont permis de m'en sortir. Je trouve que j'ai reçu beaucoup. Donc, moi, il m'a semblé que le message, là, c'était... Il fallait un peu rendre ce qu'on avait reçu. Et puis, quand je vois actuellement ce qui se passe dans le monde, quand on voit des événements comme il y a avec les talibans ou des choses comme ça, on se dit qu'il y a plus de 2000 ans, un gars qui était capable, un gamin, je dirais maintenant, vous voyez, 30 ans, quoi, qui est capable de s'interposer quand on va lapider une femme, soi-disant adultère, mais il y a certainement eu un mec à côté contre lui, on ne va pas le lapider d'ailleurs. C'est quand même, il fallait quand même avoir un sacré culot, une sacrée force pour arriver à le faire d'une manière pacifique. Donc oui, c'est un personnage, moi, qui m'a bluffé, quoi, vraiment. Et voilà, après son...
Est-ce que c'est plus qu'un personnage ou est-ce que parfois vous auriez aimé, parce qu'on entend un peu la réponse à ma question dans votre réponse, mais pour les chrétiens, c'est même quelqu'un de vivant, puisqu'il est ressuscité. Et les chrétiens disent qu'aujourd'hui même, on peut avoir une relation vivante avec lui, même si on ne le voit pas. Ça vous surprend que je vous dise ça? Ça vous paraît de la science-fiction? Ou au contraire, dans votre vie, vous avez croisé des gens qui croyaient en ça, et puis vous vous êtes dit, j'aimerais bien avoir cette foi-là.
Ah ben, peut-être. Peut-être. Je ne me suis jamais trop posé la question, si vous voulez, même la, comment dirais, la parenté divine de Jésus était... Pour moi, pas tellement important. C'était, si c'est vrai, ben, tant mieux, enfin, ou pas, j'en sais rien. Ce qui m'importait, c'est comment on se comporte dans notre quotidien, tous les jours. Et là, je trouve qu'il nous file des leçons.
Alors, je vous poserai une dernière question qui n'est pas prévue dans ces cas-là. C'est, et vous, qu'est-ce qu'il y a après la mort, alors? Puisque tout, on va dire, j'allais dire tout l'art de la résurrection, c'est de proclamer qu'il y a une vie éternelle. Et que le Christ est venu inaugurer.
C'est une
question que vous vous êtes posée. Imagine quand même quand on passe des heures à marcher dans la forêt ou à écrire des romans.
J'en sais rien.
C'est une question qu'on se pose.
Par contre, il y a une chose sur le dernier roman, du coup, La jeune fille et le fleuve, la fin, c'est la disparition du personnage principal. Bon, les gens qui ne l'ont pas lu, ça va peut-être... c'est dommage. Et ce personnage, en fait, il part sur un bateau. Donc, c'est un peu le bateau fantôme. Et c'est une allégorie en fait de notre disparition, du retour à la nature. Voilà, pour moi, je pense que ce qui se passe, je ne sais pas, mais notre corps retourne à la nature. Et si je redeviens humus pour un arbre, ça me va très bien. Je veux dire, j'ai pas...
Ça vous irait bien.
Voilà. Ah, s'il y a autre chose.
La vie éternelle, ça vous fait pas rêver, par exemple.
Oui, bien sûr. Mais bon, comme là, je n'ai pas d'options qui me permettent de faire quoi que ce soit. Par contre, je pense que la nature, c'est important. Et ce cycle de la vie est quelque chose d'extraordinaire, je trouve.
Eh bien, écoutez, espérons que vous serez surpris par une jeune pousse que vous serez peut-être un jour. Merci en tout cas d'avoir fait un détour par nos studios une nouvelle fois. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La jeune fille et le fleuve, c'est paru aux éditions Passiflore. Et il y en a d'autres, Écriture sauvage, c'est aux éditions Société des écrivains, ou alors Le chant du marais. Et puis j'en avais noté un quatrième qui sont L'arbre qui marche, et cela c'est aux éditions La Cour Ollier. Merci beaucoup Bernard Rousseau.
Merci à vous.
C'est à la technique Christophe Aubry, vous pourrez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.